m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Il est un des grands noms européens du théâtre contemporain. Voilà près de 30 ans que cet ancien collaborateur de Pina Bausch, devenu cinéaste, acteur, metteur en scène, déploie les ailes de ses spectacles sur les scènes du monde entier, entouré de ceux qu'il aime et qu'il accompagne, avec lesquels la vie n'a pas toujours été douce. Et c'est avec eux qu'il tend avec tendresse le miroir de la poésie. En cet automne pluvieux, c'est un peu comme le printemps après l'hiver. La Gioia, le nouveau spectacle de Pippo Del Bono, c'est au théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 20 octobre, et vous m'en direz des nouvelles.
Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy.
Bonjour Pippo Dalluzzo.
Bonjour.
La Gioia, en italien, ça veut dire la joie, mais vous dites vous-même dans le spectacle qu'il aurait pu s'appeler plutôt un chemin vers la joie. Le plus important, c'est le chemin.
Oui, c'est le chemin pour chercher à arriver à la joie. Il y avait un poème de Cavafis qui disait Ithaca, qui disait « Tu dois faire pour arriver à Ithaca ». Peut-être quand tu arrives à Ithaca, ce n'est pas tellement intéressant, le voyage de Ulysse. L'intéressant, c'est le voyage que tu as vécu dans le voyage, oui.
Et à quoi ressemble-t-il, le chemin de la joie? Il est pavé de fleurs, comme on peut le voir sur, le, oui. sur la scène. Il est escarpé, il est sinueux.
Il est sinueux, il a des feuilles vieux, il a des bateaux en boîte qui ressemblent au bateau d'un enfant, et il y a les fleurs, il y a tout ça.
Alors on voit effectivement tout ça sur le plateau du théâtre du Rond-Point, ici à Paris. Les objets jouent justement un rôle majeur dans la magie, dans la poésie que vous insufflez aux spectateurs à travers la scène. On les appelle souvent des accessoires, mais est-ce que les accessoires peuvent être essentiels ? Pippo Del Bono.
Les accessoires, ils deviennent après les éléments dominants de toute la situation. Ils deviennent les éléments principaux. Tu racontes à travers le voyage poétique, à travers les éléments que tu mets sur le plateau.
Et ces idées d'objets, justement, elles vous viennent comment? Est-ce qu'elles partent des mots ou est-ce qu'elles partent d'autre chose?
Elles partent d'une expérience que j'ai commencé à travailler avec un garçon réfugié. Je pensais que c'était bien que lui mettait des éléments dans la scène, faisait des choses concrètes. Et les nez qu'on sent un peu, oui.
C'est-à-dire que vous partez des gens, de l'humain, des gens avec qui vous travaillez, de cette troupe qui vous entoure depuis des années et des années.
Beaucoup de fois, je préfère partir dans les gens que dans les idées. Mais les gens, ils proposent aussi des idées, ils proposent des choses. Je préfère partir dans des images, dans des souvenirs, dans des thèmes, dans des poèmes.
C'est-à-dire que pour pouvoir bâtir un spectacle, il faut parler?
Pas nécessairement. Moi, j'aime parler un peu, pas beaucoup, pas trop, seulement parler, mais parler dans ce spectacle, je parle beaucoup.
Mais comment est-ce que l'on connaît les gens avec qui l'on travaille?
Et on le connaît pour des rencontres bizarres, des rencontres un peu spéciales.
Ça veut dire quoi, spécial, Pippo Del Bono?
Des rencontres partagées, des situations pas classiques, des auditions, des théâtres, des choses comme ça.
Mais des rencontres fortuites qui vous arrivent,
oui,
sans qu'on s'y attende?
Enfin, c'est fortuit, comme un bobo dans l'hôpital psychiatrique, comme un garçon dans la rue, comme sa fille dans un camp de réfugiés. Beaucoup, hein.
Ce spectacle, vous le dédiez à Bobo, qui était l'un des piliers de votre compagnie. Combien d'années vous avez travaillé avec lui?
22 ans.
22 ans. Comment vous l'avez rencontré, Bobo?
Dans l'hôpital psychiatrique à côté de Naples. Il était là, il était 47 ans qu'il était là.
Et pourquoi vous étiez là?
J'étais là, j'étais passé un moment pas simple, mais j'étais là pour faire un stage pour des acteurs normaux. Et après, j'ai retrouvé lui.
Alors, racontez-nous la rencontre avec Bobo.
C'était une rencontre plutôt extraordinaire. Je vis qu'il était là, il faisait des exercices de chauffage, il faisait tellement bien qu'il me ressemblait à un poète aussi dans des petits exercices qu'il faisait comme un petit chauffage.
Et de quoi est née la poésie de Bobo? Est-ce que c'est parce qu'il était différent que la poésie s'est instillée en lui et ensuite en vous?
C'est venu de la poésie de Bobo, c'est parce que lui avait toutes les conditions pour être un poète. Il n'écoutait pas, mais il écoutait tout au fond, pas avec les oreilles, mais il écoutait avec l'âme, avec la sensibilité. Et c'était tout ça qu'il avait, cet homme, pour être un protagoniste dans tous les lieux, dans l'opéra, dans la danse, dans la musique, aussi chanter dans un concert avec moi, tout s'est passé avec lui.
Et comment est-ce qu'il est passé de l'hôpital à la scène, au spectacle?
En principe, un petit peu, je l'ai kidnappé, presque. Et après, petit à petit, on commence à avoir le permis, qu'il a donné le permis d'être, qu'il pourrait rester avec moi.
Et vous lui avez dit quoi?
Je lui ai dit, viens, lui est venu.
Mais vous l'avez mis sur la scène comme ça, et puis vous l'avez laissé en liberté? Comment ça s'est passé?
Non, on a commencé à faire des répétitions, et ensemble, des barbolines, des becquettes. Et à la fin, on fait, dans ce spectacle, moi, lui, on fait ce becquet.
Et que pouvait-il donner dans du Beckett avec sa voix d'oiseau? Puisque vous expliquez dans ce spectacle qu'il avait une voix d'oiseau. Vous l'imitez, d'ailleurs, Bobo.
En faisant une grande danse, comme une rencontre, comme une amitié, on s'embrassait, on se donnait des embrasses, on se donnait des coups, on se donnait des façons. Oui, on faisait beaucoup des choses, des petites danses.
Et la poésie de Bobo, elle était innée, elle était naturellement en lui, ou il a fallu que vous la développiez?
Il avait naturellement lui. Moi, je l'ai aidé à trouver un parcours. Moi, lui, il avait un poème, une poésie particulière. Ouais.
C'est donc pour lui et par lui qu'est né ce spectacle, oui, après, La Gioia.
Au début, il avait déjà lui dans le spectacle. Après, il est sorti, alors il est venu une dédicace à lui.
Et c'est lui, c'est son personnage qui, d'un bout à l'autre, plane sur ce spectacle. Vous lui fêtez d'ailleurs son anniversaire, hein. Pippo Del Bono. Il y a eu donc ce deuil, cette disparition. Il avait 82 ans. Comment est-ce que vous êtes passé justement du deuil à la joie?
C'est un parcours dur encore pour aujourd'hui. Pour moi, c'est encore dur. Ouais. On était sur scène, il avait parlé des bobos tout le temps, parce que pour moi, il est encore dedans. Beaucoup, je suis encore dedans, beaucoup de blessures avec Bobo.
Il est avec vous sur la scène du Théâtre du Rond-Point tous les soirs, vous l'avez en permanence dans votre tête, dans votre cœur?
Oui, je l'ai.
Et comment il vous apparaît, à vous?
Quelque chose qu'il est comme dans le cœur, dans les mains, dans les bras, dans les jambes, dans toutes les choses qu'on pourrait imaginer de lui, oui.
Est-ce que ce spectacle, c'est une forme de résilience, une forme de nouvelle vie pour lui et pour vous?
Peut-être, c'est une résilience, c'est un changement, c'est une nouvelle vie, c'est quelque chose qui va changer, oui.
BMDN avec Pippo Del Bono pour son spectacle La Gioia au Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 20 octobre. Alors ce spectacle, Pippo Del Bono, vous en êtes le maître de cérémonie, vous êtes parfois sur scène, parfois en bas du plateau, au même niveau que le public, au niveau du premier rang, maître de cérémonie justement. Est-ce que vous pensez que ce spectacle-là, et le spectacle en général, c'est une cérémonie?
Oui, je crois que c'est une cérémonie laïque, c'est comme une messe laïque dans le théâtre, où les gens ils partagent des choses ensemble. Et ça, c'est la chose qui va passer dans la joie. C'est une cérémonie religieuse, sans être spirituelle, pas religieuse, mais spirituelle, oui, où les gens ils sont emmenés dans un voyage de musique, de sons, de paroles, de silence. À un moment, je dis, on reste un peu en silence, pour faire un hommage à Bobo.
Et comment on occupe un silence, Pippo Del Bono?
Je sais pas. Le silence, on l'occupe avec la respiration, avec le ventre, avec les yeux ouverts, peut-être, avec le regard sur le monde, sans mettre des jugements, avec la tête.
C'est une forme de cérémonie, une forme de rituel, disiez-vous, une forme de communion, de rite. Et dans ce contexte-là, le metteur en scène et l'acteur, ce sont des prêtres?
Oui, d'un certain côté, oui, c'est comme un peu des prêtres. Ils sont même que peuple des prêtres parce qu'ils sont des maîtres des cérémonies, je dirais plutôt ça, des maîtres des cérémonies. Le prêtre est plutôt lié à Dieu, à Jésus, à... Le maître des cérémonies est plutôt lié à la spiritualité, mais sans maître plutôt Dieu, Jésus, ou des choses, des éléments plus concrets comme les prêtres.
Et vous, avec votre micro, vous présentez au public les différents tableaux qui sont souvent très étonnants, souvent et peut-être même toujours très, très poétiques et qui en même temps, et c'est peut-être ça qui est le plus beau, Pippo Del Bono, c'est qu'ils ont l'air extrêmement simples.
C'est ça que je cherchais, la simplicité. Surtout après j'ai fait beaucoup de spectacles avec beaucoup de scénographies, la simplicité c'était une chose, c'était une arrivée difficile, oui.
Ça veut dire que quand vous concevez un spectacle, vous pensez à ce qu'il faut enlever plus qu'à ce qu'il faut mettre?
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce que vous avez enlevé par exemple là en concevant ce spectacle?
Il n'y avait plus de matériel, il n'y avait plus de chansons, il n'y avait plus de musique, il n'y avait plus de choses, plus des éléments, oui. Comme dans la vie, tu dois choisir. Au moment où tu dois choisir, c'est difficile de choisir dans la vie. Et dans le théâtre, tu dois choisir le même. C'est difficile de choisir dans le théâtre.
Est-ce que vous les avez choisis, tous les artistes qui sont avec vous dans votre troupe?
On s'est choisis ensemble.
On en revient à la rencontre, tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que vous voulez toujours mettre en avant des gens qui sont différents, des gens qui
oui,
souffrent, des gens qui ont des cicatrices.
Il y a aussi des gens qui sont danseurs, des gens qui ont fait des autres parcours. Mais les gens qui amènent des cicatrices, oui, sont des gens qui amènent un signe important dans mon théâtre, oui.
Et pour quelles raisons sont-ils importants, précisément dans
Parce
dans
que les gens qui amènent des blessures, beaucoup de fois, ils sont plus dans la poésie.
Ça veut dire, Pippo Del Bono, qu'il faut souffrir pour pouvoir donner?
Tout le monde y souffre, mais des fois, on oublie. Moi, je mets la souffrance, des fois, comme élément poétique dans une création artistique.
Sans douleur, il n'y a pas de poésie.
Tu peux arriver aussi sans douleur, mais les douleurs, elles existent. On est là, qu'on vive, on va mourir, on ne sait pas quand. C'est déjà une douleur. L'existence humaine, c'est une douleur. Ce qui passe dans le monde, la guerre, la pauvreté, les réfugiés, tout le monde, c'est de douleur qui arrive. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de douleur. Si tu fais un théâtre qui regarde dehors, qui regarde la vie, c'est inévitable que tu regardes aussi par les douleurs.
Et l'art, que peut-il faire? Accompagner ou réparer la douleur?
L'art, tu peux accompagner la douleur. Je ne sais pas si tu peux réparer.
Mais c'est pas possible de réparer.
La douleur résiste. Il reste. Je sais pas, je suis dans un moment que je traverse plutôt de douleur. Alors je sais pas dire. Je suis un peu dedans, la douleur.
Mais c'est complètement paradoxal, Pippo Del Bono, de faire un spectacle qui s'appelle La Joie, La Gioia, même de parler de chemin vers la joie, et pourtant d'être dans cet état d'esprit-là. Comment vous expliquez ça?
Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis dans un moment de douleur, j'appelle le spectacle La Douleur. C'est comme mettre du noir sur du noir, sur un rouge sur un rouge. Donc tu cherches de mettre un jaune sur un noir. Et là, c'est un peu ça.
Les fleurs qui bordent les chemins se fanent tout demain. Je garderai au cœur. Celle qui s'allumait dans tes yeux. Lorsque je t'aimais tant, au pays merveilleux, des nuances et printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi.
Pippo Del Bono, toutes les images que vous présentez au public, ces chants, ces danses, la magie des mots aussi, ce mystère du théâtre, parce que vous utilisez le mot mystère, d'ailleurs mystère, c'est encore un terme en lien avec la religion, avec la foi, avec le rituel, avec la cérémonie. Est-ce que vous pensez que chaque spectateur doit les vivre différemment? Ou est-ce que votre spectacle, au contraire, est un spectacle universel?
Je pense que chaque spectateur il peut vivre différemment les choses. Chacun y fait son parcours. Chacun y fait son parcours.
Donc ce n'est pas le spectacle de Pippo Del Bono, c'est le spectacle de chaque spectateur qui est dans la salle.
Il va appeler le spectacle de moi, oui. Je peux faire ça, oui.
Parce que vous racontez dans ce spectacle, alors je ne sais pas si c'est une histoire qui s'est réellement passée, la sortie d'une représentation en Allemagne, à l'issue de laquelle vous discutez avec le public, et on vous dit qu'on veut comprendre. Le spectateur veut comprendre.
Ça s'est passé réellement, oui.
Ça s'est réellement passé. Et il faut chercher à comprendre un spectacle ou c'est complètement illusoire?
C'est mieux de se laisser abandonner à l'expérience que chercher à les comprendre, parce que moi je ne les comprends pas.
Ah, vous ne comprenez pas vos propres spectacles?
Je ne les veux pas comprendre. Je sais des choses, mais je ne vais pas rester sur la compréhension.
Donc il faut rester sur le ressenti.
Il fait du mal à moi, le spectacle. Après, il vient dans l'idéologie, en mise en place des choses que tu avais pensées. Surtout parce que je suis acteur dedans. Alors, c'est très dangereux de penser, de trop réfléchir sur le sens, qu'est-ce qui signifie. Pas seulement que je le fais, je pourrais faire, de moment, je pourrais faire une analyse profonde de mon spectacle. Je ne sais pas si ça a besoin, je le peux faire un jour. Voir tous les signes, qu'est-ce qu'ils représentent, les relations, l'interconnexion entre les choses. Mais pour l'instant, je suis pas, j'ai pas le désir de le faire. Peut-être un peu plus avant, je peux faire.
Et plus que de comprendre l'importance pour le spectateur, si je vous ai bien suivi, c'est de rester sur son ressenti, de ressentir, de se mettre à l'écoute de ses propres émotions. Ça veut dire de garder notre âme d'enfant.
Oui, c'est ça.
Il faut pas grandir, Pippo Del Bono.
Jamais.
Vous ne serez jamais grand.
Non, jamais.
Alors on va terminer avec mon ressenti à moi, Jean-François Cadet, moi simple spectateur du Théâtre du Rond-Point, je suis venu vous voir mardi soir, et j'en ai retenu de votre spectacle beaucoup d'images, évidemment, beaucoup de poésie, beaucoup de sentiments extrêmement variés, et puis j'en ai retenu quelques mots. Peut-être que vous allez m'aider à les comprendre, ces mots, même s'il ne faut pas trop les comprendre, mais c'est plutôt votre ressenti, justement, qui m'intéresse. La folie. C'est quoi pour vous la folie, Pippo Del Bono?
C'est un peu ça que j'ai traversé maintenant. Dans ces périodes de ma vie, que tu es d'un côté dehors, que tu as peur, que tu as eu une expérience qui t'a troublé, alors tu as perdu un peu le parcours de la vie. Mais c'est aussi un acte de créativité.
Et donc on a besoin de la folie, on a besoin des fous.
On a besoin de fous, oui.
Il faut les enfermer ou les laisser en liberté?
En liberté, comme on fait en Italie.
Comme ils le font en Italie. Il y a beaucoup de fous en liberté en Italie.
Oui. Il y avait un loi qui avait fait Basaglia d'ouvrir tous les hôpitaux psychiatriques dans les années 80.
Il y a un autre mot qui m'est aussi venu à l'esprit d'un bout à l'autre du spectacle, c'est le mot beauté.
Oui, la beauté c'est une belle chose, c'est une belle parole, c'est une belle suggérance. Il y a beauté dans beaucoup de lieux, c'est souvent difficile d'aller voir la beauté. Des fois c'est difficile d'aller voir parce qu'on est perdu, on est totalement perdu.
Et comment elle naît, la beauté?
Elle est née dans un moment, comme je dis, de douleur.
Il y a un autre mot qui m'est aussi venu à l'esprit, c'est le mot famille. Est-ce que les gens qui vous entourent, sur scène, c'est une compagnie, c'est une troupe, c'est une famille, sont des amis?
C'est une troupe, normal, qui en cherche sur le plateau de devenir plutôt des gens qui sont comme en famille, oui.
Parce que dans nos familles, il y a une dimension affective.
Oui.
Qui n'est pas professionnelle.
Oui. J'espère que aussi chez nous, il y a la dimension affective qui est très importante parce que c'est la force du travail.
C'est important de bien connaître les gens avec qui on travaille.
Non, c'est pas nécessaire de se connaître très bien. C'est seulement nécessaire de se respecter, de savoir un respect. Et ça, c'est la chose principale.
Et puis il y a le dernier mot, Pippo Del Bono. Alors vous allez me dire c'est un peu une tarte à la crème, un peu caricatural quand on parle avec un Italien comme vous, c'est le mot amour. Quelle est la place pour l'amour dans votre spectacle?
L'amour c'est une parole difficile, parce que l'amour il est plein de contradictions. Dans l'amour il y a la passion qui peut faire peur, dans l'amour il y a les douleurs, dans l'amour il y a la possessivité. Le vrai amour, tu le sens quand il est libre, quand il ne donne pas, mais il ne met pas l'autre en prison. L'amour, dans le théâtre, il y a un amour qui c'est plutôt pur, qui c'est plutôt juste, qui c'est plutôt un vrai amour, qui c'est l'amour pour le monde, l'amour pour les autres, l'amour pour la vie. Alors ça, c'est un amour plus pur, plus grand que l'amour pour ta copine, ton copain, ton ami. C'est plutôt quelque chose qui est plus grand, qui appartient à la nature de l'être humain aussi.
Merci Pippo Del Bono de nous avoir donné de l'amour sur RFI aujourd'hui. Merci beaucoup. La Gioia, c'est au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 20 octobre.
Vous m'en direz des nouvelles. Main d'œuvre.
Fanny Blechner.
Aujourd'hui, je suis
la lumière qui vient de l'intérieur. Pour cette fresque, j'ai fait ce qu'on appelle une nature morte, donc des représentations de fruits, en l'occurrence une poire et une partie d'un raisin. Je m'appelle Isabelle Bonzon, je suis artiste, muraliste et fresquiste. La fresque que je pratique, c'est une peinture à l'eau, pigment et eau, sur enduit frais, composé, cet enduit, de sable et de chaux. C'est une technique ancestrale que je pratique actuellement sans aucune nostalgie. Je connais bien l'histoire de l'art, mais pour moi, la fresque a toute sa pertinence à l'heure actuelle. Il faut s'assurer que les murs, la paroi, soient saines, c'est-à-dire sans aucun salpêtre, par exemple. Comme on travaille sur un enduit frais et qu'on a entre 1 heure et 8 heures grand maximum pour peindre sur cet enduit frais, nous devons donc, les fresquistes, morceler l'image. En général, on commence par le haut et on descend au fur et à mesure, mais l'image, quelle qu'elle soit, sera fragmentée. Là, je viens de broyer et préparer mon mortier dans une auge. Ce mortier se constitue de sable ou de charge en général et de chaux aérienne. Et je pose cet enduit avec une truelle. Le verbe talocher, donc ce n'est pas donner une gifle, hein, c'est surtout masser carrément la surface de l'enduit ou du mortier, c'est la même chose, une fois qu'il est posé, qu'ils sont posés sur la paroi. Ce que je viens de faire, c'est de graver l'enduit profondément pour retrouver la couleur qui est en dessous, la couleur du mortier que j'ai coloré en ocre rouge. Et ainsi, en gravant, je retrouve la couleur du mortier. Quand on colore mortier ou enduit, on a vraiment l'impression d'avoir la couleur pleine, un bloc de couleur. L'enduit est coloré intensément, uniformément, et ce qui fait qu'il y a une intensité colorée très très forte déjà dans l'enduit. Par ailleurs, on peint sur enduit neutre, enfin blanc, puisque la chaux est blanche et au séchage, elle blanchit encore plus. Le travail du fresquiste, c'est d'être organisé et aussi patient. Donc, parce qu'il faut attendre un certain temps entre chaque couche d'enduit, mais aussi entre chaque couche de peinture. Donc, il faut attendre et surtout faire en sorte, surtout quand on se met à peindre, que l'enduit soit à point. Amoureux, comme on dit dans le jargon. On peint avec uniquement le pigment et de l'eau. Il est très difficile de reprendre une peinture, donc on n'a pas droit à ce qu'on appelle le repentir, c'est-à-dire un terme de technique de peinture qui est très connoté, mais qui veut dire qu'on ne peut pas corriger, modifier une fresque. Quand on peint une fresque, il y a un travail à faire de concentration et d'adaptation au support et aussi travailler dans l'instant. Peindre en fonction de la réaction de l'enduit et puis aussi il y a une part d'improvisation qui est non négligeable et que personnellement j'apprécie beaucoup.
Aujourd'hui, j'étais
la lumière qui vient de l'intérieur
sur RFI.
Café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Amélie Beaucourt, Sarah Tisser et Alain Pilot autour de la table du studio 41 de RFI et Hortense Vol en direct de Marseille dans le sud de la France. Bonjour tout le monde.
Bonjour, bonjour François.
Et si vous êtes dans le sud, Hortense, eh bien, ce n'est pas pour nous parler du sud, mais des suds au pluriel. Et pour cause, le coup d'envoi de la 28e édition de la Fiesta des Suds, c'était hier.
Oui, Jean-François, j'ai le vieux port de Marseille à ma gauche, la Méditerranée à mes pieds et derrière moi l'esplanade du J4 qui jusqu'à demain soir au son des musiques actuelles du monde va réunir tous les publics pour une grande fête annuelle qui qui se veut la plus populaire de Marseille.
Elle n'est pas à la Fiesta des Suds, mais en tournée un peu partout en France pour défendre son nouvel album. Vous avez rencontré Sarah, la chanteuse américaine Sarah McCoy, et visiblement la rencontre vous a marqué.
Bah oui, parce que c'est une bête de scène écorchée vive, une voix et une présence à mi-chemin entre Amy Winehouse, Billie Holiday et Janis Joplin, donc autant dire que ça vaut le détour.
Effectivement, et puis Alain, tagada, tagada, voilà les Dalton.
Télégramme, Jean-François, Dalton, oui. Télégramme, quatuor liégeois formé en 2010, dont nous allons parcourir le second album Victoria, produit par Yann Arnaud, connu pour son travail notamment avec R, Phoenix, Messia ou Alex Baupin.
Mais c'est avec vous, Amélie, qu'on va commencer.
Et quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi.
Et on va parler d'amour, hein, pas seulement de l'amour avec un grand A, mais aussi de l'amour fraternel, l'amitié, l'amour du prochain. Et on va essayer de comprendre avec vous d'où vient cette étrange émotion. Et pour ça, vous êtes rendu à l'exposition de l'amour. C'est en ce moment au Palais de la Découverte à Paris. Alors je vous pose à Amélie la même question qu'à Pippo Del Bono il y a un instant. L'amour, c'est quoi ?
Ah, l'amour et ses mystères, Jean-François. Pas facile de comprendre d'où il vient ni de quoi il est fait. Surtout qu'en français, il n'y a qu'un seul et même mot pour décrire l'amour et les papillons dans le ventre que Roméo porte à Juliette, l'amour qu'une maman porte à son bébé, ou encore l'amour que Barack Obama portait aux citoyens américains. Pourtant, on parle de choses différentes. Maud Gouy, la commissaire de l'exposition, suggère de revenir au grec.
Depuis l'Antiquité, les Grecs ont quatre mots pour mettre en scène, pour parler de l'amour. Le premier mot, c'est « agapé ». L'amour universel, l'amour en dessus de soi, qui peut être aussi l'amour de Dieu. Ensuite, on a le mot eros. Eros, c'est le plaisir, c'est le corps, c'est la relation amoureuse. Philia, hein, c'est donc l'amitié. Et enfin, storgi, qui sont les relations familiales, l'amour filial, l'amour entre frères et sœurs, la tendresse des parents, des grands-parents.
Alors un seul mot donc en français pour quatre réalités différentes, mais dans chacune d'entre elles, il est question de la même chose, Amélie, l'attachement.
Tout à fait Jean-François, et c'est ce fameux lien qui se crée entre deux personnes qu'on a essayé de décrypter au Palais de la Découverte, même si l'exposition se focalise en grande partie sur le lien amoureux au sens romantique et érotique du terme. D'abord à travers l'art évidemment, les murs sont tapissés de citations et de réflexions d'écrivains du monde entier sur l'amour, Shakespeare, Marguerite Duras, Musset, etc. Mais puisque personne ne semble avoir percé le mystère, les scientifiques aussi s'y sont mis. Chacun en a sa définition, et pour Francis Wolff, par exemple, qui est philosophe, l'amour c'est un peu une question de cuisine.
L'amitié, le désir, la passion. Je veux dire que ça n'est pas vraiment de l'amitié, c'est même d'une certaine manière le contraire de l'amitié, ça n'est pas seulement du désir, ça n'est pas seulement de la passion, c'est quelque chose qui résulte de leur fusion comme dans une bonne recette de cuisine où on ne reconnaît plus les ingrédients originaires.
Bon, avec ça, il faut reconnaître qu'on n'est pas vraiment beaucoup plus avancé. Est-ce qu'on sait au moins, Amélie, où on peut trouver ces ingrédients ?
Alors non, je suis pas revenue avec la recette du filtre d'amour.
Non,
mais...
dommage.
Désolée. Mais selon les neurophysiciens qui ont participé aux recherches, pas la peine d'aller arracher un cheveu à la personne que vous convoitez, Jean-François. En revanche, ils ont identifié deux choses qui seraient responsables de l'attachement en observant des couples de, tenez-vous bien, de campagnols. C'est ouais. Une espèce de rongeur qui vit en Amérique. Des campagnols des montagnes et des campagnols des prairies. Marcel Hibert.
Ceux de la prairie étaient monogames, parents modèles, le père comme la mère. Et ceux de la montagne, c'était l'inverse. Ils étaient absolument polygames et ils s'occupaient le strict minimum de leurs petits. La seule différence qu'ils ont pu observer à ce moment-là entre ces deux groupes d'animaux, c'était la concentration de deux hormones, la vasopressine et l'oxytocine, qui étaient très élevées chez les animaux de la prairie, donc les monogames, et qui par contre étaient beaucoup plus faibles chez les animaux de la montagne. Eh bien, les animaux de la montagne qui étaient polygames et qui avaient des faibles concentrations dans ces hormones, on leur a injecté ces hormones et on a inversé les comportements. C'est-à-dire que les animaux de la montagne sont devenus monogames, sont devenus parents modèles, le père comme la mère.
Alors c'est étonnant, effectivement. Est-ce que ça veut dire, Amélie, que les animaux, les petits ours rousse, par exemple, peuvent tomber amoureux ?
Apparemment oui, selon la commissaire de l'exposition qui m'a d'ailleurs raconté une très belle histoire d'amour.
En Nouvelle-Zélande, dans l'île de Mara, il n'y avait plus de fous de bassin. Les fous de bassin sont les grosses mouettes. Donc les ornithologues se sont dit, comment faire revenir les fous de bassin ici ? Donc ils ont installé des leurres, hein, ce qui est assez courant, des leurres d'oiseaux, donc des sculptures de béton ont commencé à jaillir dans le paysage. Quelques fous de bassin sont revenus, et particulièrement parce qu'ils les observaient bien sûr à la lorgnette, il y en avait un qui revenait, toujours au même endroit, devant toujours le même leurre, et il venait avec le bec plein de brindilles. Il avait plein de choses pour faire le nid, pour nourrir ce leurre.
Alors c'est une histoire vraie, Jean-François, cet oiseau a été baptisé Nigel, par les ornithologues d'ailleurs, et je suis désolée de vous l'apprendre, mais il a été retrouvé mort au pied de sa chair éteinte. Mort d'amour ou de déception, peut-être, on ne sait pas.
Alors c'est peut-être de là que vient l'expression « avoir un cœur de pierre ».
Ouais, peut-être Jean-François, en tout cas on croit savoir d'où vient l'expression « l'amour est aveugle ». Est-ce que vous avez une idée ?
Eh bien pas du tout, est-ce que vous avez l'explication ?
Eh bien figurez-vous que quand vous êtes amoureux, Jean-François, toutes les parties de votre petit cerveau se mettent en ébullition.
Petit cerveau, mais grand cœur quand même.
C'est vrai. Sauf votre cortex préfrontal, la partie responsable de l'esprit critique qui, elle, se désactive. Mmh. En tout cas, l'exposition propose divers ateliers pour essayer de comprendre d'où vient l'amour, des témoignages audio, vidéo, des jeux. Tout est fait, en fait, pour intéresser les 15-25 ans. C'est le cœur de cible de cette exposition. Elle fait d'ailleurs la part belle à toutes ces notions voisines que sont le désir, le consentement et l'orientation sexuelle.
L'orientation sexuelle, c'est l'idée d'être attiré affectivement, physiquement ou sexuellement, par des personnes qui appartiennent à un sexe plutôt qu'à un autre.
Il nous paraissait important de mettre en avant qu'on ne choisit pas son orientation sexuelle, qu'elle s'impose à nous, mais par contre qu'elle peut changer cette orientation sexuelle et que la vie est longue et qu'on peut tout à fait être homosexuel, puis hétérosexuel et donc être attiré par des personnes de sexes différents et que tout ça, c'est une longue construction de sa propre identité.
Une exposition donc où l'art et les sciences dialoguent ensemble, à visiter jusqu'au 30 août 2020 au Palais des Découvertes à Paris.
Amélie Beaucourt dans le Café Gourmand de VMD. Allez, on part à Marseille avec vous, Hortense. Comme tous les ans, c'est la Benda du Doc qui a ouvert hier soir en fanfare à Marseille, la Fiesta des Suds.
Oui, Jean-François, et ce collectif meute de 18 musiciens qui revisitent aussi bien Rage Against the Machine que Kool & The Gang, eh bien ici, c'est une institution. D'ailleurs, c'est peut-être aussi ça le secret de la fiesta. Un savant mélange entre tradition locale, rock and groovy, et une programmation éclectique mûrie sous toutes les latitudes. Lucie Taurine fait partie de l'équipe de la Fiesta des Suds depuis 20 ans et en est aujourd'hui la directrice. Elle nous livre les secrets de fabrication d'un événement qui entend bien offrir du bonheur à la carte.
La recette de la Fiesta des Suds, c'est une belle alchimie, un mélange de fêtes populaires, de carnaval, évidemment de musique, ouverte sur les ailleurs, avec la progression, un travail sur des têtes d'affiche, mais aussi beaucoup sur aller chercher le petit artiste en devenir qui ensuite va exploser ou pas, mais que les spectateurs repartent avec ce souvenir en tête plutôt que finalement l'artiste qu'ils sont allés voir au départ.
Côté découverte, je me réjouis du concert ce soir de la musicienne et activiste emblématique de la culture sahraoui, Aziza Brahim, qui dédie son folk blues du désert à son peuple en exil. Peut-être on en reparlera dans Vous m'en direz des nouvelles, Jean-François. Oi ! Côté tête d'affiche, je dis oui aussi, surtout quand la divine Catherine Ringer chante les Rita Mitsuko, un groupe fondé il y a 40 ans.
Les Rita Mitsuko représentent pour moi plein de choses. 85, Marsa Baila, j'avais 12 ans, c'est ma première boum autorisée. Et on dansait, on se déhanchait sur la cassette du best-of en se disant « mais c'est fou cette histoire, mais elle parle de mort, mais en même temps c'est génial ».
Devant un public conquis, plus de 10 000 personnes, Catherine Ringer, dont la voix n'a pas pris une ride, s'est déclarée heureuse d'être de la fiesta pour interpréter des morceaux arrangés et bidouillés, c'est son mot, avec Fred Chichin. Pourtant, 12 ans après la mort de son complice à la ville comme à la scène, prendre la route pour rejouer ce répertoire n'était pas forcément une évidence.
Quand Emmanuel de Gurtel, le patron de la maison de disques Because, chez qui je suis, m'a dit qu'il voulait sortir une intégrale des Rita Mitsuko, j'étais très contente dans le sens où ça permet d'entendre plein de chansons qui ne sont pas forcément écoutées. Et puis après, repartir sur scène à chanter que du Rita, oh, j'étais là, moi j'ai toujours continué à en chanter quand, en faisant mes concerts avec mes nouvelles chansons. Donc, faire que ça, j'ai l'impression de me tourner vers le passé, mais j'ai vu une telle joie dans les yeux des gens autour de moi. Ah oui, tu vas faire ça? ça m'a boosté à le faire et je regrette pas du tout de faire ça. Maintenant, je suis étonnée qu'on dise toujours les 40 ans du groupe, dans le sens où en fait le groupe est mort il y a 12 ans maintenant, comme vous avez dit, mais les chansons restent.
Autre tête d'affiche en ouverture de la Fiesta des Suds hier soir à Marseille, Hortense, le groupe de reggae français Dub Inc., qui l'année dernière a fêté lui ses 20 ans de carrière.
Est-ce qu'on est ensemble ce soir à Marseille? Hey, give it a tune!
À peine revenu de Mexico, Dub Inc. entamait hier soir une tournée marathon pour fêter la sortie de son nouvel album, Millions. Un album de raga dub caraïbéen aux échos méditerranéens, irrigué par la nécessité absolue de rêver. Une manière, nous l'explique Aurélien, l'un des chanteurs, et Zigo, le batteur, d'interroger notre capacité à imaginer le changement maintenant.
On aimerait voir un nouveau décor, tout à sous contrôle, chaque attaque son rôle, alors qu'on est passif sur de la dynamite.
Il va falloir aussi à un moment oser changer, oser rêver à autre chose. Et construire quelque chose de différent.
Ensemble.
Ensemble, tout à fait. Et ça, je pense que c'est un des messages qui, comme tu dis, domine beaucoup sur le dernier album et qu'on esquisse depuis notre premier disque. Quand on parle de métissage, quand on parle de mélange, c'est aussi ça. C'est le monde qu'on espère pour demain, il ressemble à ça.
C'est important de mettre du positif, surtout de nos jours. Je pense que la nouvelle génération qui est connectée en permanence, ils bouffent du négatif toute la journée. La planète meurt, il y a des guerres partout, des attentats, etc. Pour nous, c'est hyper important de parler de tout ça, mais d'apporter du positif au milieu de ce message.
Événement festif par excellence, populaire et fédérateur, la Fiesta des Suds, c'est jusqu'à demain soir sur l'esplanade du J4 à Marseille. Et voilà comment Lucie Taurine résume ce qui s'annonce.
Musique, chaleur, couleur, bonne humeur, jusqu'à pas d'heure.
Côté musique, on attend Hubert, Félix Thiéphaine, Arnaud, Hocus Pocus, Tchégué ou encore le trio français d'électro Bon Entendeur, dont la reprise du titre d'Isabelle Pierre, Le Temps est bon, est l'hymne de cette 28e édition.
Le temps est bon, le ciel est bleu, nanana, 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 mes amoureux. Oui, où sont-ils d'ailleurs, mes amoureux? Où sont-ils? Allô?
Le temps est bon.
Voilà, le temps est bon. Bonne fiesta des Suds, Hortense. Et merci à Benjamin Sarali et Fabien Munieret qui vous accompagnaient dans la capitale des Bouches-du-Rhône.
If I could catch you like a fish. If I could weave a web of time, I would catch you in a moment now, and in that moment far.
On la décrit comme une diva félinienne, une ionne gothique, une magnifique ogresse. Sarah McCoy est en tournée partout en France pour présenter son premier album Blood Sirène, sorti cette année.
Avec cette voix, et quelle voix, à mi-chemin entre Amy Winehouse, Billie Holiday ou Janis Joplin, c'est que Sarah McCoy, 34 ans, une fois au piano, avec ses formes généreuses, ses costumes, ses fanfreluches et sa coiffure bicolore façon Cruella le soir où je l'ai vue, Sarah McCoy fait partie de ces artistes qui mettent leur trip sur scène.
Pour moi, il n'y a pas d'autre façon de faire. Je ne suis pas la meilleure chanteuse ni la meilleure pianiste, mais c'est vrai, je mets tout sur la table et c'est comme ça que je me suis fait remarquer.
C'est un documentariste français qui l'a repéré il y a 5-6 ans à la Nouvelle-Orléans.
Oui, à l'époque, elle avait les cheveux teints en vert ou rouge, des dreadlocks, des airs punk, et elle jouait, chantait pour le public braillard des clubs de la ville.
Ça n'avait pas toujours été comme ça. C'est peut-être à cause de la gentrification, des touristes qui ont trouvé les rues secrètes de la Nouvelle-Orléans. On s'est retrouvés de plus en plus à devoir jouer devant des gens qui étaient là pour voir des matchs de foot. Et c'est difficile à expliquer ce qu'on ressent, mais imaginez, vous êtes en train de chanter, de raconter que vous avez un jour voulu mourir, et là, un abruti se met à brailler par-dessus votre voix. Quand j'ai eu l'opportunité de venir en France, le choix a été facile.
Et Et en France, il y a 2 ans, une bonne fée met Sarah McCoy sur le chemin du musicien Chilly Gonzalez et du producteur Renaud Létang, qui lui font enregistrer un premier album, Blood Sirène.
Avec des compositions et des textes écrits pour certains depuis l'adolescence, comme ce morceau commencé à 14 ans quand son père policier se mourait d'un cancer. C'est The Death of a Blackbird, la mort d'un merle noir.
You know, my dad was such a huge figure for me.
Mon père était tellement important pour moi, enfant. Je l'aimais et j'ai vu toutes ses forces s'évanouir. J'ai commencé ce morceau à 14 ans, je ne l'ai jamais oublié. Et c'est fou de se dire que j'ai mis 20 ans à le finir et l'enregistrer. Ça raconte ce que ça fait de voir un oiseau tomber du ciel.
Where I miss her, where.
Peu après commençait la longue errance de Sarah McCoy.
Oui, sous le coup de la colère, à 19-20 ans, elle quitte sa mère, la Caroline du Sud, traverse les États-Unis jusqu'en Californie en stop, et c'est en chantant dans la rue qu'elle va roder sa voix.
Dans la rue, on est obligé de chanter fort pour se faire entendre. Mais chanter fort, c'est aussi une façon de crier ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a subi, ces situations que la société vous inflige.
Sarah McCoy découvre alors la vie sans domicile fixe, de squat en caravane et tout ce qui va avec, une forme de liberté aussi qu'elle a parfois regrettée en arrivant à Paris.
You know, you get road hard, you get cold towards society and other people because
sur la route, on devient dur et froid parce que la vie est dure pour le corps, pour le cœur. Et en même temps, c'est la liberté. On est libre de danser sous la pluie. Après 10 ans à danser sous la pluie, on a froid. Mais n'empêche, en arrivant à Paris, j'ai eu du mal. La vie y est très différente de la Nouvelle-Orléans. Il a fallu que je m'habitue et maintenant, je danse à nouveau sous la pluie.
And now I dance in the rain again.
Quand je suis arrivée, c'était l'hiver, donc pas de soleil. Alors vous l'entendez, hein, depuis, elle apprend le français et ça lui permet, entre autres, d'expliquer ses chansons au public entre deux rires.
Dear mama, it's almost my birthday. You knew I'd use my thumbs. They flick the ashes to the ground.
Il y a cette lettre que Sarah a écrite à sa mère pour lui demander de prier pour elle. Il y a cet autre texte, Ugly Dog, où elle se vit en chien hideux aux côtés de sa meilleure amie qui attire tous les regards. Une sensibilité à fleur de peau et pas de faux-semblants chez cette chanteuse de blues cabossée par la vie.
C'est
parfois embarrassant quand j'explique le sens de mes chansons. Je suis là à dire donc, oui, je me sens moche, oui, j'ai été une merde, oui, je me sens vieille maintenant et j'étais plus drôle avant. Mais je ne regrette pas d'être honnête. On vit une époque où on nous dit ce qu'il faut penser, à quoi il faut ressembler. J'ai une très bonne amie. Quand je vois sa page Facebook, elle a l'air tellement heureuse. Et quand je lui parle, c'est tellement le contraire.
I've been dancing with liars on the checkerboard.
Sarah McCoy en tournée en France avec ce premier album. Elle sera entre en concert à Pierrefitte-sur-Seine près de Paris la semaine prochaine pour le festival Ville des Musiques du Monde. Merci beaucoup Sarah.
On dit que dans la famille, vous payez toujours vos dettes, t'as frôlé la folie et qu'ils ont mis un prix sur ma tête. Mais si tu voulais m'aider à renouer les bouts, si tu reviens, tu sais que si tu reviens, j'annule tout.
Dalton Telegram dans VMDN sur RFI. Si tu reviens, j'annule tout. Un titre qui sonne un petit peu comme un clin d'œil à un ancien président de la République française, Alain. En tout cas, il figure sur le nouveau disque de Dalton Telegram, Victoria.
Qui fait suite à La Cavale et La Planque, leurs deux premiers mini-albums qui ont précédé leur premier long format, Sous la fourrure, paru en 2016 et enregistré sous la houlette du fameux Seb Martel. Dalton Telegram, ce sont quatre amis du bord de Meuse, un groupe de rock à la base très friand de bonnes chansons françaises. Et quand il a écrit le texte de Sparadrap. Quant à Maquet, le chanteur a pensé clairement au sentiment de douleur lorsque notre compagne ou notre compagnon ne sont plus là. À quoi sert une chanson dans ces moments-là, Quentin ?
Alors, au moment où j'écris des chansons, franchement, elles me servent plus à moi que à ceux qui l'écoutent. Et il y avait un Beatles, je crois que c'était...
C'était Mick Jagger.
Oui, c'est ça, qui disait si une chanson te plaît à toi, c'est qu'elle va bien plaire à quelqu'un d'autre dans le monde, c'est pas possible autrement. Et franchement, je me pose pas d'autres questions. Moi, quand j'ai fait Sparadrap, avec cette espèce de... Allez, d'image, de point de vue qui est de dire est-ce qu'il vaut mieux quand une personne n'est plus là, essayer de chasser le souvenir au plus vite, comme quand on tire un sparadrap d'un coup, est-ce que c'est bien de faire partir, enfin bon, soit vous avez compris là où je veux en venir. Quand j'ai écrit cette chanson-là, moi je pensais vraiment aux gens qui sont plus âgés, qui n'ont plus les personnes qu'ils aimaient, qui ont disparu pour toujours en fait. Et puis les gens l'ont compris en étant plus quand on se lève et puis que la personne avec qui on a passé la nuit n'est plus là. Donc voilà, il y a plein de degrés de lecture. Et voilà, je suis un peu perdu dans ce que je voulais dire, mais en même temps...
On recollera les morceaux.
Voilà, merci, c'est gentil.
Que j'aime ça, ta peau colle encore à ma peau, comme un sparadrap.
Sparadrap, premier extrait de l'album Victoria de Dalton Telegram.
Disque écrit en partie durant la tournée de leur premier album et au gré de leurs escapades en baie de Somme.
D'autres escapades ?
Depuis 2010, oui, le groupe s'est produit à travers la francophonie, de Montréal aux montagnes suisses du Montreux Jazz Festival et aussi de leur Belgique natale à la France voisine, Pologne et Roumanie. Lauréat en 2011 du concours du F dans le texte, du concours talent acoustique TV5 Monde et récipiendaire en 2006 du prix belgo-québécois Rapsat Le Lièvre. La formation rejoint par Fanny de Fanfan s'est éloignée aujourd'hui du son americana qui fut un temps sa marque de fabrique. Et si elle ne se tait pas sur ce virement de style, elle est aussi déserte sur la dimension du silence dans sa musique.
C'est au moins 50% du job, voire plus. Voire plus. Les silences après Dalton, c'est toujours du Dalton. Non, c'est vraiment... justement, si on veut... Quand je parlais tantôt d'une musique... qui permettrait de danser calmement, qui permettrait de danser en fermant les yeux, c'est justement avec la gestion de ces silences-là qu'on y arrive. En fait, le groove, c'est la gestion du silence qu'on fait entre les sons, et donc, ouais, c'est super important.
À ceux qui se taisent dans ce boucan, à ceux qui se plaisent dans leur silence, ode à ceux qui la ferment dans ce torrent et qui murmurent leurs sentiments.
Dalton Telegram, mon sanglot, avec l'humour qui le caractérise. Quentin Maquet nous parlait tout à l'heure de Keith Richards comme de Beatles, mais les allusions aux artistes mythiques du rock sont bel et bien présentes dans ce disque. Hein.
Oui, justement, Jean-François, quid des Eagles et de leur fameux Hotel California, traduit ainsi par les Dalton, ces aigles et leur hôtel californien, sans oublier les Rolling Stones, sachant qu'ils citent également Mick Jagger.
Oui, bah, je ne me refuse pas quand même une mauvaise blague de temps en temps. Je ne me refuse pas un jeu de mots un peu foireux, oui. C'était... En fait, j'avais fait une chanson qui s'appelle Le Relais, et c'était après avoir vu l'émission Striptease. Je sais pas, c'est une émission qui est très importante en Belgique et qui, je pense qu'elle est passée ici un petit peu.
Énorme ici.
Voilà. Et donc, il y avait une émission sur une personne qui était très petite et qui racontait sa difficulté. Enfin, qui racontait pas, on le voyait vivre sa difficulté d'être entouré d'adolescents et d'essayer d'inviter une fille à un slow, à une boom, quoi, si on veut. Et moi, ça m'avait fendu le cœur. Et donc, voilà, les aigles et leur hôtel californien, c'était pour la rime, évidemment. Et c'était aussi pour parler des slow, pour avoir un truc un peu, allez, je veux dire, cliché du slow.
J'attendais le quart d'heure américain.
Mon sanglot, Dalton Telegram, titre tiré de leur second disque Victoria, sorti chez Art E. Merci Alain, merci aussi à Hortense, Sarah et Amy.
Je voulais que le temps s'arrête. Mais toi, tu voulais juste me demander une cigarette.
Le journal dans un instant sur RFI, on se retrouve lundi avec un album de bande dessinée qui nous fait découvrir le parcours et l'œuvre d'un grand musicien et compositeur français. Alain, ça vous dit forcément quelque chose, l'homme du boléro.
Bah Ravel, mon Ravel. Compatriote.
Voilà, Ravel, et vous m'en direz des nouvelles.
Comme c'est le cœur et les yeux.